pour en faire une madame, pour devenir un monsieur, on a le cœur battant, battu, qui bat de l'aile, on vient d'avoir 20 ans, on se sent déjà bien, quand un copain s'en va, pour la grande aventure, vers ses pays lointains, dont les noms font rêver, et qu'on rêve d'envol, rivé à sa voiture, dans la cohue des citadins, bison. Quand un copain s'en va vers l'or et la poussière d'El Dorado fameux d'Amérique ou d'Asie, avec son petit sac du club en bandoulière, on préfère rester là avec sa poésie. Quand un copain s'en va au bout de son concert, pour signer de sa croix un cimetière de banlieue, autour du coffre en bois, les restants se resserrent et des larmes d'enfants leur barbouillent les yeux. Quand un copain s'en va, qu'il a perdu sa gueule, on se souvient que c'était lui, Robin des Bois. Alors, on prend un coup, on rit, on fait le fier, mais on sait qu'il y a des guerres qu'on ne refera pas. Alors, on prend un coup, on rit, on fait le fier, mais on sait qu'il y a des guerres qu'on ne refera pas.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors j'avais l'intention dans cette émission de vous parler du service national universel, vous savez, le fameux SNU, dont la Cour des comptes a jugé le budget beaucoup plus élevé que celui qui était annoncé. Et vous dire aussi que la droite et l'extrême droite du gouvernement aimeraient bien transformer ce SNU en véritable service militaire. J'aurais aussi voulu vous parler de la situation politique en Kanaky, qui est toujours très tendue, et de la situation sociale en Martinique, qui entraîne des violences. Mais nous sommes toujours rattrapés par l'actualité et malheureusement la guerre menée par Israël contre les Palestiniens et maintenant contre les Libanais continue à faire de très nombreuses victimes civiles et bien sûr à l'Union Pacifique, nous ne pouvons pas rester indifférents aux drames humains provoqués par une armée génocidaire. Si l'armée israélienne continue à massacrer et à défier les Nations Unies, c'est parce que les gouvernements occidentaux ne prennent aucune mesure coercitive pour obliger le gouvernement israélien à stopper la guerre. Heureusement que les opinions publiques réagissent encore aux images dramatiques des victimes que nous montrent des journalistes palestiniens au péril de leur vie. C'est en effet la première fois que des journalistes internationaux sont interdits dans la zone de guerre, même s'ils sont embarqués, comme disent les Américains, c'est-à-dire convoyés par l'armée. Les journalistes palestiniens sont donc obligés de prendre des risques mortels pour essayer d'informer la communauté internationale. Et c'est le cas de Rami Abu Jamous, qui a été primé à deux reprises pour son journal de bord de Gaza à l'occasion de la 31e édition du prix Bayeux pour les correspondants de guerre. Rami Abu Jamous tient son journal de bord de Gaza sur le site Orient 21 depuis le 28 février 2024. Alors voici les échos de la remise du prix de Rami Abu Jamous à Bayeux le 12 octobre 2024.
Le trophée presse écrite département du Calvados est attribué à Rami Abu Jamous pour Orient 21, journal de Gaza.
Tout a commencé lundi 24 mai en fin d'après-midi. Les infos commençaient à circuler. Les chars étaient arrivés jusqu'à ce qu'on appelle Tazalob. C'est presque au milieu de l'axe de Philadelphie. Et malheureusement, juste à 500 mètres de chez moi. Et puis on les a vus. C'était des petits chars robotisés, ceux que les Israéliens envoient avant une incursion pour reconnaître le terrain, tester les défenses et voir s'il y a des mines. La panique s'est alors installée. C'était juste avant le coucher du soleil. Les gens ne savaient pas s'ils devaient rester ou partir. Nous avons d'abord décidé de rester. On s'est dit, on va passer cette nuit ici et on verra. Les Israéliens disaient que pour Rafah, ils enverraient des tracts ou des messages vocaux pour ordonner d'évacuer telle ou telle zone. Mais ça n'a pas été le cas. Ils nous ont surpris. Ils ont attaqué dans le sud du quartier Tal el-Sultan, où je m'étais réfugié avec ma famille. On a passé une nuit terrible. Tirs d'artillerie et de chars, bombardements des F-16, et surtout les quadcopters, ces petits drones effrayants, car ils sont comme des fantômes qui peuvent entrer dans ta chambre sans que tu t'en rendes compte. On a commencé à prier, en pensant vivre notre dernière nuit dans cette pièce. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Israéliens ont appliqué la même technique qu'à Gazaville, où nous avions dû quitter notre appartement au début de la guerre. Ils ont ravagé le quartier. C'était comme un tremblement de terre. Il y avait des tirs de partout. Le sol et les bâtiments tremblaient. Ils ont bombardé l'hôpital indonésien qui est juste à côté de chez nous, puis l'immeuble voisin. Les chars étaient là et on se demandait si on allait en sortir vivant. Walid a beaucoup applaudi comme je lui ai appris à le faire quand les bombes et les obus tombent pour lui faire croire que c'est un jeu. J'ai commencé à jouer et à blaguer avec lui, à rigoler, pour qu'il ne sente pas le danger. J'ai un peu fait le clown, parfois ça marchait, parfois moins, quand les bombes et les obus tombaient tout près. Et que des éclats de vitres et de pierres frappaient la maison, surtout que nous habitions une pièce au rez-de-chaussée. À Rafah, ce fut une nuit vraiment horrible pour tout le monde. On attendait le lever du soleil. Nous avions la chance d'avoir une voiture. Partir en voiture, toutefois, c'était très dangereux, plus dangereux que de partir à pied, parce qu'on constituait une cible pour les chars et les drones. J'ai demandé aux gens qui défilaient devant la maison où se trouvaient les soldats, les chars, les drones. J'ai compris qu'ils étaient plus au sud. Alors nous avons dit au revoir à tous les amis du quartier, avec qui nous avions passé près de 6 mois. J'ai fait un trajet en zigzag, en essayant de m'éloigner des routes principales, patrouillées par les chars israéliens. Puis on a dû prendre la route côtière en direction d'Al-Mawassi et de Deir al-Balah. Dans la voiture, la tension était élevée. Je me suis mis à chanter pour Walid sa chanson préférée qui dit « Les roues de l'autobus tournent, tournent ». Il a commencé à chanter avec moi. Et puis les autres enfants se sont joints à nous et du coup, j'ai réussi à leur faire évacuer le stress et la peur. On chantait pour faire comme s'il n'y avait plus de danger, mais mon cœur priait en silence pour que l'on s'en sorte vivant.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande et profonde émotion que je vous parle ce soir. Depuis Gaza, depuis ma tente, la tente qui est devenue un peu le symbole de 1,7 million de personnes qui étaient forcées de se déplacer dans la bande de Gaza, voire plusieurs déplacements. Je vous parle aujourd'hui à Gaza alors que j'aurais bien aimé être avec vous et parmi vous, de partager ces moments de joie avec vous. Là, je vous parle de Gaza vers Bayeux, où il y a d'intersection d'histoire. Et j'espère qu'un jour, à Gaza, il y aura un débarquement de la paix et de la liberté. Je veux vous parler de ce prix. Ce prix-là, c'est pas juste une récompense pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu une victoire pour tous les journalistes palestiniens et surtout les journalistes gazaouis qui luttent et continuent à lutter pour faire passer les images et le message de Gaza vers le monde étranger. Pour moi, c'est vraiment une grande victoire que j'aurai ce prix-là, j'aurai honoré d'avoir ce prix-là, où je suis un journaliste palestinien. Comme quoi, merci Bayeux d'avoir prouvé qu'on peut être palestinien et journaliste. Je voulais dédier ce prix-là à mes parents, qui m'ont appris l'amour de la patrie, qui m'ont appris c'est quoi la dignité, qui m'ont appris comment rester digne, comment rester en Palestine. À mon père qui m'a toujours dit que la plume et les images sont beaucoup plus fortes que les armes. Je voulais dédier aussi ce prix-là à tous mes collègues et mes amis journalistes qui sont allés se reposer en paix, qui ont été tués par l'armée israélienne pendant ce conflit et pendant cette guerre-là. Et surtout, je voulais dédier ce prix-là à mon ami, à mon frère Bilal Jadallah, qu'il était mon associé, on était des journalistes, des fixeurs ensemble, et on a travaillé pendant des guerres, on a couvert plusieurs guerres, mais malheureusement, cette année-là, on l'a perdu parce qu'il a été tué pendant cette guerre. Je voulais aussi remercier beaucoup de monde, et surtout mes amis journalistes francophones, qui étaient pour moi le soutien et les étoiles, qui ont donné de la lumière à la boîte noire où je vis, à ce sombre là, la vie sombre où je vis. Je le remercie de tout mon cœur parce qu'ils étaient toujours là, me soutenir et surtout parce qu'ils ont bien pris les messages et les voix que j'envoie depuis Gaza. Ils l'ont transmis en France et partout dans le monde francophone. Et je vais les remercier aussi Orion 21, que pour moi c'est grâce à eux que les messages et les voix de Gaza sont arrivés en France et partout dans le monde francophone. Je les remercie, c'est pas parce que c'était juste une plateforme où je pouvais m'exprimer, mais c'était pour moi un endroit où je pouvais respirer. Je pouvais parler de mes problèmes, de tout ce que ça m'entoure, de tous les problèmes des Palestiniens et surtout des Gazaouis. Je les remercie beaucoup. Et enfin, je vais les remercier ma famille, Sabah, Walid, les enfants, qu'ils étaient toujours là pour me soutenir, Sabah à qui je pouvais compter, et que quand j'allais travailler, je savais que je pouvais compter sur elle, et que tous les deux, on était un peu les piliers de la famille qui, jusqu'à présent, heureusement, ne s'est pas incliné, et j'espère que ça va continuer. Merci Sabah, merci Walid, parce que c'est vous qui m'avez inspiré et m'encouragé à continuer de travailler et à témoigner de tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je suis vraiment profondément touché par ce prix-là et cette récompense et cette victoire. Et merci de m'avoir donné la parole de vous parler de deux mots depuis Gaza, alors que j'aurais aimé être avec vous. Merci, merci beaucoup.
Vous avez entendu le témoignage du journaliste palestinien Rami Abu Jamous, retransmis depuis Gaza, à l'occasion de la remise de son prix pendant la 31e édition du prix Bayeux pour les correspondants de guerre. Aux côtés de Rami, trois autres journalistes de Gaza, Sahel Al-Ghora, Mohamed Abou Safia et Mahmoud Amams, ont également été primés hier, respectivement, dans les catégories jeunes reporters, photo, télévision, prix Amnesty International et photo. Un hommage appuyé a également été rendu au journaliste Issam Abdallah, tué au sud Liban par une frappe israélienne le 13 octobre 2023, en présence de sa consœur Christina Assi et de son confrère Dylan Collins, survivant de l'attaque. En choisissant de décerner 6 prix sur 10 à des journalistes palestiniens de Gaza, sans oublier les guerres et les conflits en cours ailleurs dans le monde, on parlera bien sûr de l'Ukraine, d'Haïti et de bien d'autres, ni la politique migratoire européenne meurtrière, le jury du prix Bayeux et ses partenaires rappellent la gravité et la centralité de la guerre en cours depuis plus d'un an à Gaza. Le mardi 15 octobre 2024, la journaliste de France Inter Sonia Devillers est entrée en contact avec Rami Abou Jamous. Alors voici cet entretien qui rend bien compte de la vie à Gaza menacée en permanence d'être interrompue par l'armée israélienne.
Mon invité est palestinien, il vit à Gaza avec sa famille où nous le joignons par téléphone. Il est journaliste et il transmet sans relâche ses informations et ses analyses à 150 journalistes français qui saluent unanimement son courage physique et son sens de la précision journalistique. Je rappelle que ce travail accompli au péril de sa vie est d'autant plus essentiel que les journalistes étrangers sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza. Bonjour Rami Abou Jamous.
Bonjour Sonia.
Alors, toujours en vie ce matin.
Toujours vivant.
Toujours vivant, c'est le message que vous envoyez chaque jour aux 150 journalistes et humanitaires français qui sont connectés avec vous via WhatsApp. Quand vous commencez votre journée de travail, Rami, vous avez quitté votre villa où vous vivez avec votre épouse, Saba, ses enfants et le petit garçon que vous avez eu tous les deux, Walid. Vous pourriez nous décrire cette villa ?
C'est une tente à peu près de 4 mètres carrés à peu près.
Ouais.
Dans un bout de terrain. Un peu ce bout de terrain là où je suis, c'est un bout de terrain privé. On est à peu près 8 familles.
Ouais.
Mais entouré de ce bout de terrain, il y a un mur. Mais derrière ce mur, il y a un compte de fortune de déplacer avec des centaines de tentes collées les unes à côté de l'autre et dans des conditions de vie très, très, très dures.
Et c'est déjà une chance d'avoir une tente à Gaza aujourd'hui.
C'est pas une chance, c'est un privilège. Avoir une tente, c'est un grand privilège. C'est parmi le luxe de Gaza aujourd'hui. Si on peut avoir une tente, c'est quelque chose de luxe.
D'autant que l'automne a commencé, les pluies ont commencé.
Oui, parce que vivre une tente, c'est aussi affronter directement le changement des saisons.
Ouais.
Pendant l'été, c'était l'enfer. La journée, c'est beaucoup plus qu'un sauna. Et là, on est entré dans l'automne où il a plu la dernière fois, juste même pas une heure, deux heures, et on était inondés. On était inondés. L'eau est entrée à l'intérieur de la tente, a entouré la tente, il y avait de l'eau partout et Walid, d'habitude, il aime la pluie et quand il a vu ça, il a commencé à jouer et moi je lui dis, mais papa, on est en train de se faire inonder, mais je continuais de jouer avec lui pour lui pas lui montrer qu'on est vraiment dans l'humiliation.
Rami, en fait, vous viviez avec Saba et avec Walid dans un appartement en centre-ville que vous avez dû quitter. Pourquoi ?
Ben, on était obligé de quitter parce que on était encerclé par l'armée d'occupation qui sont venus juste parce que il a dit que tout le quartier va être dévasté et que on a juste 10 minutes pour partir. Et là, on était obligé de partir. Et quand on est parti de notre appart, moi, j'avais pas d'autre alternative que chez un ami à moi au sud. Donc,
ouais.
On était parti à Rafah. Et puis à Rafah, pareil, c'est le même scénario. On était encerclés pendant la nuit et on était obligés de quitter le lendemain matin pour aller à Deir el-Balah. Et on est fini par notre villa, la villa de la fierté, juste au bord de la mer. Il y a pas de place. Il y a pas un endroit vide. Il y a pas un mètre carré qui est vide. C'est pour ça que les gens, ils ont mis leur tente à la plage et ils subissent à chaque fois que il y a la pleine lune, ils subissent toujours la marée haute, la marée basse, ils n'ont pas le choix.
Vous vous êtes posé la question de quitter le pays? Vous vous êtes posé la question de partir, Rami?
De partir définitivement depuis, oui. Non. Mais j'avais promis aux enfants de Sabah et à Sabah que si on va sortir vivant de cette guerre-là, on va sortir changer un peu d'air. Et surtout que les enfants de Sabah, et surtout Moaz, il a toujours rêvé d'aller en France, et surtout pour la Tour Eiffel, parce qu'il a entendu parler, il a vu ça sur les réseaux sociaux. Et surtout, il voulait manger dans le resto à la Tour Eiffel.
Ouais, vous avez appris le français en France, parce que vous avez fait vos études en France. Votre père a été journaliste. Vous vous étiez promis de ne pas devenir journaliste à votre tour, Rami. Qu'est-ce qui fait que la vie a changé?
C'est un peu le destin, comme on dit chez nous, parce que moi, je voulais pas du tout être journaliste, parce que le travail de journaliste, je l'ai vu avec mon père. Et pour moi, le journalisme, c'est la deuxième famille de mon père. Donc, c'était un peu, on était un peu jaloux de cette deuxième famille. Et moi, à chaque fois, quand je voulais le taquiner, je dis, ouais, t'étais chez ta deuxième femme, là, t'étais en retard. Et donc, je voulais pas vivre cette vie-là pour moi et pour mes enfants. Mais ça fait du sorte que j'ai fini par prendre la flamme de mon père et continuer le chemin. Et j'espère qu'il sera ou qu'il est fier de moi.
La maison de la presse. Vous avez relancé la maison de la presse. Pourquoi ?
C'était une idée avec moi et mon ami et mon frère Bilal Jadallah, qui a été tué cette année pendant cette guerre-là par l'armée israélienne. On travaillait ensemble comme journaliste et comme fixeur. Et après, on a eu l'idée-là avec une troisième personne qui s'appelle Omar Chaban, de faire la maison de la presse. Et l'idée, c'était, malheureusement, la majorité des médias en Palestine, ils sont tous reliés à des factions. Et que les nouveaux diplômés, ils n'auront pas la possibilité d'être libres. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas idéologiquement appartenant à telle ou telle faction, mais ils travaillent avec eux parce qu'ils veulent trouver un travail.
C'est-à-dire que, en fait, vous faites votre travail de journaliste avec des exigences qui sont les nôtres, tout en conjuguant ce quotidien Rami Aboudjamous qui est tantôt kafkaïen, tantôt cauchemardesque, comme vous le racontez presque chaque jour dans le journal de bord. J'ai une dernière question, parce que vous nous avez annoncé dans le journal de bord que vous attendiez un bébé, que Sabah est enceinte. C'est pour quand, ce bébé?
Normalement, si tout va bien et si on est toujours vivant, ça va être un mois de mars. Donc, si tout va bien, on va avoir une nouvelle fleur qui va être un être. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Moi, je dis une fleur parce qu'il y en a beaucoup des fleurs, malheureusement, qui se sont fanées.
Ouais.
Je parle des enfants qui ont été tués pendant cette guerre. Et donc, Sabah et moi, on a eu l'idée et la décision de dire il faut montrer que la vie continue. Il faut dire que même sous une tente, il y a toujours l'amour. Même sous une tente, il y a une nouvelle fleur qui va naître et que la vie va continuer même après ce génocide. C'est notre façon de résister, c'est notre façon de dire on est toujours là et qu'on est raciné dans ce bout de terrain ou dans la Palestine. Et si c'est pas nous qui va avoir le jour d'avoir un État palestinien indépendant, ça sera nos enfants.
Maoutini, Maoutini. الجمال والجلال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل سالما مناما وغانما
مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. الحسام واليرى لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا
Parlons toujours dans notre émission Civis Pacem de la guerre génocidaire de l'armée israélienne à Gaza. Vous avez entendu le témoignage du journaliste palestinien Rami Abu Jamous qui a reçu un prix pendant la 31e édition du prix Bayeux pour les correspondants de guerre. Et nous allons entendre maintenant la présidente de Médecins sans frontières qui raconte ce qu'elle a vu à Gaza dans l'émission C'est politique du 9 octobre 2024.
Isabelle de Fourny, vous qui étiez dans la bande de Gaza la semaine dernière, vous êtes la seule sur ce plateau à avoir pu y entrer récemment, donc on a besoin de vous pour comprendre ce qui s'y passe concrètement. Qu'est-ce qui frappe d'abord le plus quand on pénètre dans la bande de Gaza ?
Finalement, la première chose qui m'a frappée en arrivant à Kerem Shalom, qui est le point d'entrée dans la bande de Gaza, c'est le peu d'activité à ce point de passage, parce qu'on s'attend à voir, moi je m'attendais à voir des centaines de camions d'aide qui attendaient de rentrer dans Gaza, et en fait, il se passait pas grand chose. Et ça, c'est un des points très importants finalement, c'est le fait qu'il y a pas grand chose qui rentre en aide humanitaire et en biens de première nécessité dans la bande de Gaza. Ensuite, on part de Kerem Shalom dans des voitures blindées et on a une heure de route pour arriver à Dar el-Balah, qui est dans la zone, dans la middle area, qui est dans cette zone humanitaire. Et pendant une heure, tout est détruit. Donc on est frappé par l'ampleur des destructions. Je le savais avant d'y aller. On le voit sur les images, mais ce sont pas des images choisies en fait. C'est l'ampleur des destructions est gigantesque.
C'est-à-dire que les images qu'on voit, on a en tête ces images de drones qui survolent la bande de Gaza. Peut-être qu'on peut les voir et qui donnent vraiment. Ce sont ces sentiments-là. C'est ce qu'on voit quand on roule dans Gaza.
Tout à fait. On passe à hauteur de Khan Younis, qui est complètement, alors là, qui est complètement à plat, qui était une ville de 150 000 habitants. Et puis on arrive dans cette zone humanitaire où ont été poussées plus d'un million de personnes qui ont été déplacées 5, 6, 7 fois, qui se sont déplacées 5, 6, 7 fois en un an et qui sont arrivées dans cette zone qui est une toute petite zone de 40 km² en bord de mer, sur le sable. Et il y a 1 million, 1,5 million personnes qui vivent là. On a vu un peu les photos dans des abris extrêmement précaires. On parle de personnes sous tente, mais en fait très peu en détente. Ils se sont débrouillés pour faire des abris avec littéralement des morceaux de plastique, des couvertures.
Ceux qui n'ont pas de tente, c'est ça, des abris de fortune.
Certains arrivent à avoir des bâches en plastique, d'autres ont fait leurs abris simplement avec des couvertures, mais là. Les premières pluies ont commencé.
Est-ce que c'est possible parce qu'on sortait de l'été et qu'on n'était pas encore à l'automne ou en hiver, voilà, ça peut être aussi dur là-bas.
Là, les premières pluies ont commencé, donc ça a été immédiatement un désastre. Et l'hiver arrive, les températures vont baisser énormément. Et le problème n'est pas uniquement les abris. Tout manque, la nourriture est toujours en quantité insuffisante, l'eau, une des demandes très prégnante des populations quand j'y étais, c'est le savon. Donc on en est là quand même, ils demandent du savon, du shampoing. Une collègue me disait, je vais pas enlever mon foulard, tu n'imagines pas, je me suis plus lavé les cheveux, des dames se coupent les cheveux, donc on en est, parce qu'elle arrive pas à se laver, on en est là, donc c'est vraiment du minimum, se protéger la peau, donc ne pas être mouillé, pouvoir se laver, et à nouveau, nourriture et eau en quantité.
Ouais.
Toujours, les gens ne meurent pas littéralement de faim ou de soif, mais ça prend toute la journée pour trouver les quantités de nourriture, pour trouver la nourriture suffisante. Juste le mois dernier, sur le mois de septembre, les Nations Unies, le Programme Alimentaire Mondial, par exemple, a réussi à faire rentrer dans Gaza uniquement l'équivalent de la nourriture pour un cinquième de la population, donc un cinquième de leur cible.
D'accord.
Ils ont les stocks de nourriture, ils ont l'argent, ils ont les camions, un cinquième de la nourriture seulement est rentrée. Et le reste, c'est sur du marché, il y a un peu de nourriture quand même dans le marché, mais à des prix extrêmement élevés.
Ouais.
Et on pourrait presque dire il y avait, parce que ces derniers jours, les camions commerciaux ont été interdits d'entrer à Gaza. Il y avait environ 150 camions qui rentraient par jour, et là, je crois que c'est 7 camions ces derniers jours. Donc.
7 camions par jour,
oui.
Ces derniers jours.
Bah, l'idée...
Quand il en faudrait 500, je crois, hein, à peu près. Minimum.
Oui.
C'était le minimum avant.
Ça, je parlais des camions, ouais, commerciaux, 150. Les camions d'aide humanitaire, c'est vraiment très peu. Et alors, ces derniers jours, le nord de la bande de Gaza, depuis le 1er octobre, il n'y a plus rien qui est rentré dans le nord.
Et on précise d'ailleurs que le nord de la bande de Gaza, depuis hier, a été appelé une fois de plus à évacuer par l'armée israélienne, parlant d'une nouvelle phase de la guerre, donc c'est-à-dire repoussant, déplaçant une fois de plus, c'est je crois 4 à 500 000 personnes qui vivent encore dans le nord de la bande de Gaza. Je vais évidemment faire tourner la parole.
Oui,
mais
bien sûr.
Ça fait 23 ans, je crois, que vous faites de l'humanitaire. C'est ce qu'on m'a dit en préparant
l'émission. Oui, j'ai commencé en 99.
À peu près.
25.
Bon, on est bien, 25 ans. Vous avez déjà été confronté à une situation comme celle-ci ou pas?
Non, en fait, parce que... j'ai beaucoup pensé aussi en étant sur place. Je me disais, la séquence... Par exemple, ces camps sont extrêmement peuplés. Quoi. Les gens sont vraiment les uns sur les autres.
Gaza était faisait... déjà l'une des zones les plus densément peuplées au monde.
Plus dense, mais 1 million de personnes sur 40 km², c'est... Alors ça me faisait penser par exemple au camp des Rohingyas. Mais les Rohingyas, c'est une population qui est quand même très, 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 très maltraitée. Mmh. Et où très régulièrement, on a dit que les niveaux d'aide humanitaire étaient complètement insuffisants. Mais ce qui est frappant à Gaza, et ce à quoi on n'a jamais été confronté, c'est d'avoir une population emprisonnée, qui ne peut pas sortir de la bande, qui est bombardée pendant un an. On a vu des sièges avec des bombardements, mais à Alep, par exemple, ça a duré 6 semaines. Un an de bombardement
prisonnier.
À Alep,
prisonnier. Ça a duré 6 semaines, d'accord.
Le moment, ouais, du siège et bombardement intense. Et alors, l'autre chose qui est extrêmement frappante, c'est que on est dans la bande de Gaza avec des collègues palestiniens. Il y a 800 personnels palestiniens qui travaillent avec Médecins Sans Frontières, une trentaine d'internationaux de Médecins Sans Frontières. On est là, prêts à travailler, on a les budgets, on a le matériel, et on n'arrive pas à le faire rentrer. Donc il y a vraiment une obstruction.
Il est là à quelques kilomètres.
Oui, il y a une obstruction à l'entrée de l'aide.
Et...
de l'aide humanitaire.
Et très concrètement, ça a des conséquences désastreuses sur le plan médical. On lit ces derniers jours beaucoup de témoignages d'humanitaires qui nous parlent d'enfants amputés sans anesthésie. Évidemment, on en a parlé dans le billet de Pierre-Michel, d'épidémie qui se propage. Et Agnès Levallois, on a du mal à nommer ce qui se déroule depuis un an. Comme si on n'osait pas le nommer, d'ailleurs. Comment est-ce que vous regardez
ça? C'est très, très difficile de nommer l'innommable, d'autant plus que le fait qu'il se blocus, vraiment tout part du fait que c'est un territoire sous blocus. Et donc, à partir de là, même s'il y a eu ce formidable témoignage avec ce reportage qui a été fait, avec les journalistes palestiniens qui travaillent sur place, et il y en a beaucoup qui arrivent encore à travailler, à nous envoyer des images, mais c'est largement insuffisant pour pouvoir documenter tout ce qui se passe et pour se rendre compte de l'ampleur des destructions et des conditions de vie, surtout de la population de Gaza. Et ce témoignage que vous venez de faire est précieux parce que ça permet vraiment de mettre des mots justement sur une situation pour laquelle il est très difficile de le faire parce qu'on n'a pas tous les éléments, d'où cette volonté qu'on a eue de faire ce livre noir de Gaza pour essayer justement de mettre des mots et d'analyser et de partir des faits, de la réalité sur le terrain.
Quand vous prenez la décision d'écrire un livre noir de Gaza, est-ce que c'est aussi dans l'idée de se dire on ne pourra pas dire dans 10 ans, dans 20 ans qu'on ne savait pas?
Oui, absolument. C'était un des éléments de se dire il faut absolument qu'il y ait ces témoignages, qu'il y ait ces faits qui soient attestés, écrits, noir sur blanc, et qui permet de porter à la connaissance de ceux qui veulent savoir, même si on a des bribes d'informations. Mais ce qui est terrible dans ce travail, c'est que quand on suit l'information les uns et les autres, finalement, on sait déjà beaucoup de choses. Mais le fait de mettre côte à côte, dans ces différents chapitres, tous ces éléments, quand on arrive au bout de la lecture de ce travail, c'est vrai que c'est absolument terrifiant, parce qu'on se rend compte que c'est pas simplement des bribes, il y a une vraie stratégie. Peut-être qu'on en parlera.
On va en parler.
Et vraiment, cette stratégie qui est mise en œuvre et qui conduit en quoi? Moi, je finirais par dire un mot. C'est un territoire qui est aujourd'hui invivable, au premier sens du terme. Après tout ce que vous avez dit, le mot qui me vient, c'est invivable, parce qu'il n'y a même pas de quoi se nourrir un minimum, simplement se laver avec du savon. Enfin, on est vraiment dans une situation qui est assez inédite. Et par rapport au siège d'Alep, on y faisait référence tout à l'heure en Syrie, dans le siège d'Alep, même s'il était très dur, on pouvait toujours essayer de partir. C'était difficile, c'était dangereux, mais on pouvait à un moment tenter de s'échapper. Là, il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, c'est quand même très très spécifique au conflit de la bande de Gaza.
Vous avez entendu la présidente de Médecins Sans Frontières dire dans cette émission C'est politique du 9 octobre 2024 ce qu'elle a vu à Gaza. Elle l'a fait comme beaucoup d'autres médecins et infirmières qui étaient les seuls d'ailleurs à pouvoir rentrer dans Gaza et qui ont déjà témoigné plusieurs fois à la télévision et ailleurs sans émouvoir les gouvernements occidentaux qui ne font rien pour arrêter ce génocide à Gaza. Agnès Levallois, que vous venez d'entendre aussi, est chercheuse et spécialiste du monde arabe et elle a recueilli ses témoignages dans le livre qu'elle vient de faire paraître et qui s'intitule « Le livre noir de Gaza ». Les chercheurs ont d'ailleurs le mérite d'essayer de documenter les massacres de l'armée israélienne à Gaza car les journalistes ont le plus grand mal à se faire entendre aujourd'hui dans les grands médias occidentaux et en particulier en France. Alors le choix par le jury du prix Bayeux et ses partenaires de décerner des prix aux journalistes palestiniens rappelle une évidence qui trop souvent a été remise en question également dans les médias français, voire même à l'intérieur de certaines rédactions, le fait que l'on peut être journaliste et palestinien. En l'absence de journalistes occidentaux sur place, de nombreuses réactions françaises et occidentales ont mis du temps à accepter de donner la parole à des journalistes palestiniens, comme on le ferait pour n'importe quel correspondant pigiste n'importe où dans le monde. Trop souvent, dans certaines rédactions, on a entendu des confrères et des consoeurs de Gaza être accusés d'être affiliés au Hamas, prétexte pour mettre en doute leurs paroles, comme on continue à le faire pour le bilan des morts, en le faisant systématiquement suivre par cette précision selon le ministère de Santé du Hamas. En primant 6 fois un travail sur Gaza, dont 3 fois pour Rami Abu Jamouz, le jury du prix Bagneux rend hommage non seulement aux journalistes palestiniens qui continuent à informer sur ce qui se passe sur leur territoire, mais également aux 172 autres journalistes palestiniens qui ont été tués depuis un an. C'est à eux, ainsi qu'à ses parents et à sa famille d'ailleurs, que Rami a dédié ses victoires. Mais dans les médias français, donner son opinion sur la guerre à Gaza est devenu difficile, voire impossible. Voici un exemple, délivré sur la chaîne Le Média par le journaliste de l'émission Actu Démasqué. Il prend l'exemple d'un entretien sur BFM TV avec la députée Rima Hassan.
L'eurodéputée française d'origine palestinienne Rima Hassan est-elle une terroriste? Je vois d'ici certains d'entre vous ouvrir grand les yeux. Mais en réalité, cette petite musique, ce type d'insinuation posée innocemment, ça et là, constitue depuis des mois le non-dit, le métatexte des leaders d'opinion qui s'en prennent à elle. Revenons sur ces derniers échanges musclés à l'antenne de BFM TV avec les journalistes Olivier Truchot et Alain Marchal le 8 octobre dernier. Un peu de contexte. La veille, le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu à la commémoration du 7 octobre 2023. Et lors de son discours, des huées ont retenti à l'évocation du nom d'Emmanuel Macron.
Un an après le 7 octobre, 4000 personnes rassemblées par le CRIF pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. Face au public, le Premier ministre assure sa détermination à lutter contre l'antisémitisme.
Nous ne laisserons rien passer. Nous continuerons à défendre, à combattre l'antisémitisme par tous les moyens.
Alors qu'Emmanuel Macron a appelé samedi à l'arrêt de livraison d'armes à Israël, l'évocation de son nom déclenche un tollé dans quelques rangées.
Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur...
C'est dans ce contexte que Truchot et Marchal invitent Rima Hassan à s'exprimer sur BFM TV. Et on va le voir, la question est très très fermée.
Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez?
Bien sûr que Rima Hassan ne peut pas comprendre le message envoyé par celles et ceux qui s'indignent qu'on puisse plaider pour une trêve dans l'administration quotidienne de la mort à son propre peuple. Si elle veut rester dans le cadre édicté, elle ne peut donc qu'apporter son soutien à Emmanuel Macron, dont l'attitude dans ce conflit est pour le moins ambiguë, dont elle est une opposante, dont le gouvernement réprime les voix pro-palestiniennes par tous les moyens que l'on connaît. Et si elle décide d'être bonne joueuse et d'approuver Macron, elle sait que cela revient à alimenter le discours adverse qui tiendra ses propos pour une preuve de la compromission du locataire de l'Élysée. Elle change donc de braquet et attaque dans un premier temps BFM.
Je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question.
Rima Hassan, vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions.
Sur votre chaîne.
Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV.
Je suis libre de mes propos.
Je suis libre aussi de dire que
vous
êtes félicité est inacceptable.
Par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit.
Vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable.
Vous ne pouvez pas commencer à nous attaquer, on vous invite. Cela ne vous fait pas penser un peu à du Cyril Hanouna dans le style...
Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat?
Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne.
Je ne crache pas dans la main qui me nourrit.
Bref, le présupposé des propos outragés des présentateurs de BFM TV est que les politiques qui ne peuvent se passer de leur médiation pour parler au grand public leur doivent déférence. Les élus doivent se soumettre au pouvoir médiatique. Vous me direz, sinon quoi? Eh ben, regardez la suite.
On va vous féliciter pour cette prise de position et des attaques sur BFM TV.
Sinon, quick, micro coupé. Dans le fond, les journalistes de BFM craquent parce qu'ils n'ont pas d'arguments à opposer à leur contradictrice. Ils hésitent à lui porter la contradiction ou alors la faire taire. Ou la mettre en cause, l'accuser de les menacer. On rembobine.
Des comptes à rendre devant qui?
C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent.
Non, pas écoutez, non, pas invité
c'est très problématique que votre chaîne
merci.
Soit non, félicitée.
Écoutez, stop, on va arriver à l'interview, désolé.
On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Pourquoi couper à ce moment-là, forcément? Car si Rima Hassan développe son propos, on entendra forcément les arguments selon lesquels la Cour internationale de justice a parlé de génocide plausible dans la bande de Gaza et selon lesquels le procureur auprès de la Cour pénale internationale a sollicité des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, tout comme contre les premiers responsables du Hamas pour crimes de guerre. À ce jeu-là, on met en crise la règle d'or du « mais ce n'est pas pareil ». Or, c'est le mais ce n'est pas pareil qui nous fait admettre l'omniprésence d'Olivier Rafovitz sur les plateaux, alors que même une parole politique du Hamas diffusée sur le même format n'est tout simplement pas envisageable. C'est le mais ce n'est pas pareil qui est le soubassement des éditions spéciales des chaînes d'infos françaises, comme celle de BFM à Tel Aviv le 7 octobre, où l'on voit les familles des otages et les visages des victimes, des otages, le porte-parole de Tsahal pendant 15 minutes, l'émotion légitime des Israéliens, mais rien, rien, rien concernant ceux qui continuent de mourir à deux pas de là, les Palestiniens. Le « mais ce n'est pas pareil » est dans tous les esprits. C'est la voix du suprémacisme occidental, et nous le savons tous, mais peu osent se l'avouer. Donc on louvoie. Il faut donc s'appliquer à penser que quand Rima Hassan parle de comptes à rendre, elle n'évoque pas la thématique de la complicité de crimes de guerre pouvant être plaidés un jour devant un tribunal international. Il faut penser qu'elle envoie un message à ses frères les terroristes du Hamas et d'ailleurs. C'est le sens assumé des propos de Jordan Bardella sur X.
Dans le pays qui a connu la tuerie de Charlie Hebdo, Rima Hassan menace clairement les journalistes de BFM TV. L'extrême gauche a fait élire une véritable porte-parole du Hamas au Parlement européen. Elle en partage l'idéologie meurtrière et les pratiques d'intimidation.
Ce qu'affirme sans trembler le président du RN, c'est ce que susurre avec un peu moins de hardiesse, un nombre effarant de politiques et de commentateurs de centre-gauche et de centre-droit. Comme si, au fond, le RN était le porte-parole décomplexé d'un schéma mental partagé. Et il faut le dire, nauséabond. Car ce que pointe Rima Hassan, c'est ce que déplore à longueur de colonne des médias spécialisés. Comme Arrêt sur image. Arrêt sur image qui notait le 3 octobre dernier, sous la plume de la journaliste Alizée Vincent, que le 1er octobre, Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de l'armée israélienne, avait été interviewé 9 fois en 24 heures sur les principales chaînes d'infos françaises. Sur BFM, Éric Brunet et Alice Darfeuil lui donnent du « mon colonel » 8 fois en 10 minutes du journalisme en uniforme, dans toute sa splendeur. Arrêt sur image donne la parole à une journaliste française sur place, très critique vis-à-vis de ce type de pratique.
Alice Froussard, correspondante à Jérusalem pour plusieurs médias francophones, estime qu'il faut questionner cette omniprésence médiatique. Selon la journaliste, elle sert à justifier les propos et la version de l'armée israélienne. Une armée en guerre est un outil de propagande et ne doit pas être la source unique des journalistes. Cette parole devrait être remise en contexte en plateau, mais malheureusement, ce n'est pas systématiquement le cas. On l'invite sur tous les plateaux télé et on l'interroge comme un interlocuteur classique qui détiendrait la vérité. À titre de comparaison, avons-nous vu autant la porte-parole de l'armée russe sur les plateaux ? Demande Alice Froussard.
C'est quoi là la différence avec le raisonnement de Rima Hassan? Certains analystes disent tenir la preuve de la volonté suprême de nuire de l'eurodéputé de la France insoumise. Comment ça? Voici les propos prononcés par Olivier Rafovitz sur BFM.
Je ne parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés.
Or, Rima Hassan ou ses soutiens auraient diffusé un extrait de ses propos en autant le des deux côtés. Or, ce bout de phrase prouverait, si l'on suit cette logique, que Rafovitz donne crédit à BFM d'une sorte de traitement équilibré. Mais de qui se moque-t-on? Quel communicant compromet un média qui lui est favorable publiquement en le remerciant de son parti pris? En réalité, pour prendre la mesure des propos élogieux du porte-parole de Tsahal à l'égard de BFM, il faut s'attarder sur son rapport très chatouilleux à l'indépendance éditoriale. On se souvient de son incroyable agressivité face à Mohamed Kassi, journaliste à TV5 Monde, quand il l'a interviewé
normalement. C'était le 15 novembre 2023.
Entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles du droit international et en particulier humanitaire?
Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire?
Non, moi je donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question.
Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain, vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non.
Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible.
Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain?
Donc vous allez faire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir?
Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique.
Non, Bolivar, vous venez de dire, monsieur, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux.
Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Que vous me dites, là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal.
Alors, reprenez votre propos pour qu'on le comprenne.
Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne.
Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde.
À la suite de cette interview sans concession, donc normale, résultat de pression ou pas, la direction de TV5 Monde a désavoué son journaliste dans un communiqué. Un journaliste dont l'honneur va par la suite être rétabli par l'ARCOM, le gendarme français de l'audiovisuel, lequel a affirmé qu'il n'avait commis aucune faute. On se souvient également de l'attitude d'Olivier Rafovitch face au journaliste Julien Pain de France Télévisions.
On a bien vu ces tunnels qui passent effectivement sous l'hôpital, ou juste à côté, ça, on ne peut pas le nier, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, nous disent qu'on ne voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ne ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels?
On n'est pas persuadé, on le sait.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je vous dis deux choses. D'abord, on était présents, on l'a vu. Et puis, on a des centaines de terroristes du Hamas, des Nourba, qui sont chez nous, et qui parlent, et qui donnent leur enseignement le plus précis, et on a tout. Votre question nous dérange.
Pourquoi?
Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à une autre démocratie. Posée au Hamas, posée aux salafistes, qui tuent et qui attaquent les démocraties, ce qu'ils font eux. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement étrange, voire nauséabonde.
Vous avez entendu sur la chaîne Média le journaliste de l'émission Actu Démasqué expliquer comment des médias français traitent une députée, Rima Hassan, ou des journalistes qui osent poser de bonnes questions au sujet des agissements de l'armée israélienne. La chaîne Blast faisait le 7 octobre 2024 une émission spéciale consacrée à l'analyse des médias qui avait pour titre « La propagande à l'épreuve des faits ». Il s'agissait d'analyser la propagande politique et militaire israélienne qui a permis, et qui permet toujours d'ailleurs, de justifier l'injustifiable. On pouvait entendre dans cette émission Alain Grèche, le directeur d'Orient 21, le député Émeric Caron, Clotilde Mfraco et Loumi. Alors en voici quelques extraits.
Je suis ravie de vous accueillir, Alain Grèche.
Merci.
Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la rédaction du média en ligne Orient 21, avec lequel nous sommes heureux de collaborer pour cette émission. Et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, auteur de nombreux livres sur cette question, dont ce livre vraiment très important, « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Émeric Caron.
Bonjour.
Vous êtes député rêve apparenté France Insoumise de Paris. Vous étiez vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale avant que n'advienne la dissolution. Sans relâche, vous vous êtes mobilisé pour manifester votre indignation et votre soutien aux Palestiniens aussi bien dans les arènes politiques que médiatiques. Et vous avez en plus, à la tentation des uns et des autres de détourner le regard, opposé celle des images avec la réalisation d'un film sur Gaza depuis le 7 octobre. On en parlera. Bonjour Loumi, vous êtes collaboratrice régulière de Blast, co-autrice d'un programme dédié à la critique des médias, qui en ont bien besoin, avec Usul, c'est Rhinocéros bien sûr. Vous nous parlerez de l'importance de la critique médiatique dans un champ naufragé, et on reviendra plus spécifiquement sur ce premier numéro de Rhinocéros que vous avez courageusement consacré à la couverture de la guerre de Gaza. Je reviendrai bien évidemment sur l'emploi de ce terme de courageux. Enfin, bonjour Clotilde Mfraco.
Bonjour.
Vous êtes journaliste correspondante à Jérusalem. Vous rentrez tout juste de Cisjordanie, qui subit une accélération de la colonisation depuis le 7 octobre et qui est le théâtre quotidien de violences, d'exactions de la part des colons de l'armée israélienne. Vous nous en parlerez. Votre dernière visite à Gaza remonte au mois de juin. Vous avez constaté, vous avez dénoncé avec force le discrédit que certains s'attachent à associer au travail des journalistes palestiniens. Gazaoui en particulier. D'ailleurs, pour ouvrir cette émission, j'aimerais que l'on regarde ensemble le témoignage d'un journaliste palestinien à l'Ingrèche. Il s'appelle Rami Abou Jamous. C'est votre correspondant à Gaza.
Oui.
Voilà, donc on va regarder tout simplement son témoignage et puis on en parle après.
Un an de guerre, c'est 365 jours de peur, de la terreur, des massacres, des boucheries, des israéleries, de jamais vu. C'est comme un tremblement qui est passé. Non seulement on vit sous la terreur et le bombardement, mais on vit aussi des conditions de vie très difficiles. Moi, personnellement, on était obligé de partir de Rafah, de Gaza vers Rafah. À Rafah, on était dans un petit T1 partagé avec une autre famille. Après Rafah, on était obligé de partir pour les mêmes raisons, parce qu'on était encerclé par l'armée israélienne, par les chars. Donc on était obligé de partir. Mais cette fois-ci, on est parti à Deir el-Balah. À Deir el-Balah, malheureusement, on n'a pas trouvé un appart pour se réfugier. Donc on était obligé d'implanter une tente et de vivre sous une tente. Vivre sous une tente, c'est vraiment l'humiliation totale. C'est pas faire un camping à la montagne ou bien à la plage, mais plutôt vivre dans des conditions très difficiles. Vivre avec les reptiles, avec les insectes, avec la mouche, avec le sable, avec la poussière. Vivre dans la chaleur comme dans un enfer. Donc c'est une vie vraiment d'humiliation. À part les bombardements et les israéleries, il y avait aussi la guerre de la famine. Il n'y avait plus rien à manger. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a quelque chose à manger, mais les prix sont extraordinaires. C'est pas du tout normal. C'est 10 fois, voire 20 fois le prix. Et les gens, ils n'ont pas la capacité d'acheter chez ce genre de produits. C'est pour ça que la majorité des gens, ils ont maigri. Et c'est la malnutrition. Il y a beaucoup des enfants qui sont morts à cause de la malnutrition. Et tout ça, c'est pas encore fini. En même temps, il n'y a plus rien pour les enfants. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'université, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vie, il ne reste plus rien. C'est comme si c'est un tremblement de terre qui est passé, et ce tremblement de terre, il n'a rien laissé. Il a touché la pierre, l'arbre, l'homme, il a tout construit, il a tout détruit. Il n'y a rien qui reste. Ceux qui sont toujours survivants de ce génocide, que moi je l'appelle un gazacide, ils restent tout le temps juste pour survivre et essayer de rester en vie.
Alain Grèche, oui, vous pouvez nous dire un mot sur cette collaboration. C'est important de donner la parole aux journalistes.
C'est important de donner la parole aux journalistes palestiniens. Depuis le 28 février, ils couvrent pour nous la vie quotidienne à Gaza. Qu'est-ce que c'est de vivre sous les bombes? Qu'est-ce que c'est d'être déplacé tous les jours? Aujourd'hui, il a publié une tribune dans Rien 21 pour dire son émotion pour ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Et en même temps, il dit, nous, depuis le 7 octobre, nous vivons tous les jours à Gaza à 7 octobre. Et le fait d'avoir des images et de faire parler des Palestiniens est très important, d'autant plus qu'on peut constater que, à part Blast ou quelques autres, personne n'a donné la parole aux dizaines de journalistes palestiniens qui travaillent à Gaza, dont beaucoup ont été tués par l'armée israélienne. Et donc on a dit, il n'y a pas d'image. Et personne ne met en cause, et j'ai vu peu de protestations de journalistes, sur le fait qu'Israël interdit les journalistes là-bas. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une guerre aussi longue, qui n'est pas couverte par les médias, parce qu'Israël a décidé, pour des raisons qu'on voit, quand on voit les images, on comprend pourquoi ils n'ont pas du tout envie que les journalistes aillent là-bas. C'est-à-dire que c'est une image d'apocalypse.
Clotilde, vous avez travaillé sur cette question, vous étiez correspondante. 174, je crois, journalistes morts à ce jour, c'est quand même un chiffre,
c'est jamais vu dans l'histoire du journalisme moderne, en fait, depuis que des organisations de défense de la liberté de la presse font des comptes. On n'a jamais eu autant de victimes journalistes et travailleurs des médias dans un conflit. C'est très compliqué aujourd'hui parce que, à la fois, et c'est ce que dit très bien Rami Abou Jamous, on a vraiment des journalistes qui sont pris eux-mêmes dans le quotidien de la guerre, qui ont du mal à nourrir leur famille, qui ont du mal à trouver de l'eau, qui ont besoin de mettre les leurs à l'abri, qui sont déplacés. Rami vit sous une tente. On a donc ce quotidien qui les empêche de vivre et ils sont sous les bombardements. Et puis en même temps, il y a le fait qu'en tant que journaliste, ils sont particulièrement visés. On a réussi à avoir des témoignages de plusieurs journalistes qui nous racontaient que leur gilet presse, en fait, les mettent en danger bien plus qu'ils ne les protègent. Et que les drones israéliens les voient très bien et même les blessent directement.
Je rappelle juste que RSF a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis par Israël contre des journalistes. C'est important de le rappeler aussi. Oui,
oui, parce que on est en train en ce moment, depuis un an, de réunir justement ces preuves pour montrer qu'il y a un ciblage en fait de ces journalistes palestiniens avec un but qui est celui de les faire taire en fait.
Aymeric, vous voulez réagir là-dessus? Vous êtes aussi ancien journaliste, si je ne m'abuse, avant que d'être député.
C'est effarant de constater en effet le non-traitement médiatique, je pourrais dire le traitement médiatique, mais non, le non-traitement médiatique de ce génocide depuis un an. Je n'ai jamais vu ça. J'ai effectivement couvert différents conflits. Je suis allé sur les terrains qui étaient des terrains problématiques à l'époque où j'exerçais, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, la Côte d'Ivoire, etc. Un journaliste qui décide de couvrir un conflit sait qu'il va prendre quelques risques, mais c'est lui qui prend la décision ou pas, en principe, hein, d'un point de vue déontologique, d'aller ou pas sur le terrain. C'est pas un État, un gouvernement qui lui interdit, en prétextant peut-être de vouloir le protéger malgré lui. Ça n'existe pas, ça. Très clairement, Alain l'a dit, il y a une volonté de la part du gouvernement israélien de taire, de faire silence sur ce qui se passe dans Gaza, sur les atrocités qui y sont commises, empêcher toute documentation. Et puis ça permet surtout à Israël d'avoir son narratif. Quand Israël débarque dans un hôpital, par exemple, qui était utilisé par du personnel médical qui soignait des civils et qui rase tout, qui tue tout le monde et qui dit ensuite « bah ouais, c'était le Hamas ». Et puis alors, aucun journaliste n'est là. Si, il y a des journalistes palestiniens, je vais en dire un mot dans un instant, aucun journaliste d'une rédaction française, européenne, etc., n'est là pour aller faire son reportage, pour aller faire sa propre enquête sur le terrain. C'est absolument dramatique, c'est une négation totale de la démocratie. Et moi, j'étais très choqué. Là encore, ça a été rappelé. Alors, le nom de journaliste tué, je crois que c'est un peu compliqué de le déterminer avec précision. RSF a un autre calcul que le vôtre, mais de toute façon, c'est une quantité énormissime qu'on n'a jamais vue sur un conflit. Mais de dire, on ne fait pas de reportage sur France 2, sur TF1, sur les chaînes info, parce qu'il n'y a pas de journalistes. Mais quel mépris, voire quel racisme, pour les journalistes locaux qui sont sur place. Parce qu'il y a des tas de journalistes qui travaillent, mais ils sont palestiniens.
Il y a eu cette phrase, il n'y a pas de journaliste palestinien.
Alors, on peut tenir compte du fait qu'en effet, et ça, on en tient compte, que oui, ils sont d'un côté de l'histoire, donc ça, on peut en tenir compte dans leur récit, mais enfin, au-delà de cette précaution qu'on pourrait prendre néanmoins, je trouve ça complètement irrespectueux, et je dis d'une certaine forme raciste, de considérer que leurs images n'auraient pas de valeur, leurs témoignages n'auraient pas de valeur. Est-ce que, par exemple, le journaliste qui témoigne toutes les semaines dans Rien 21 est un menteur? Je ne le crois pas un seul instant. Ces récits sont extrêmement documentés, précis. Voilà, ce sont des gens extrêmement sérieux, et on ne prend pas leurs témoignages en compte. Je trouve ça honteux.
Je rappelle que nous aussi, nous avons notre correspondant Mohamed El Seif, dont on va diffuser un reportage sur la deuxième partie de cette émission.
Je vais encore dire un mot sur eux pour leur rendre un hommage tout à fait particulier, parce que on sait que vivre aujourd'hui à Gaza, c'est l'incertitude sur le fait de savoir si on sera encore vivant le lendemain, parce que ce sont des gens qui se couchent sans savoir s'ils se réveilleront le lendemain, hein, s'il n'y a pas une bombe qui aura détruit leur tente. Mais en plus, quand on est journaliste, on sait qu'on va être ciblé. Particulièrement. Alors ceux qui ont choisi de rester malgré tout, enfin, sont d'un courage absolument admirable.
Souvent avec leur famille d'ailleurs sur place aussi. Lumi, on reparlera de rhinocéros après, mais vous développez aussi cette idée que les images provenant de ces journalistes palestiniens sont, on peut dire, très très peu utilisées par les médias français, totalement discréditées. Justement, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. On en reparlera plus longuement après, mais je veux bien que vous réagissiez.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas du tout pris au sérieux à partir du moment où ça vient pas d'un journaliste qui vient d'un pays occidental. Les images ne seront pas prises au sérieux. Effectivement, il y a pas, on ne se scandalise pas, on ne parle pas du fait que les journalistes sont ciblés, sont massacrés, etc., etc. Leurs propres confrères, du coup, nous ici en France, donc invisibilisent complètement ça. Et puis aussi, donc vous avez parlé de de racisme. Et donc moi j'ai plutôt travaillé effectivement sur des journalistes qui travaillent en France. Il y a aussi donc l'association AJAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui a signalé qu'il y avait quand même une montée du racisme dans les rédactions en France depuis le 7 octobre, et qu'effectivement il y avait beaucoup de personnes musulmanes par exemple qui étaient tout de suite vues comme suspectes à partir du moment où elles allaient devoir travailler sur
d'être solidaires du Hamas,
de la Palestine, voilà. Exactement. Mmh. D'ailleurs ça s'est vu aussi dans certains reportages, quand on observe du coup les bandeaux qui apparaissent en bas pour indiquer quelle est la profession de la personne, très souvent il va y avoir écrit par exemple journaliste proche du Hamas ou journaliste proche du Hezbollah, ça voilà, de, même encore hier je crois dans le JT de France 2. Et donc ça, c'est normal. Alors pourquoi pas donner des indications, etc. Par contre, quand les journalistes du JT de France 2 suivent les porte-paroles de l'armée israélienne, il n'y a pas écrit ces indications. Et en fait, on nous prévient beaucoup quand c'est d'un certain côté, on va nous dire attention à ce que vous regardez, attention aux images qui sont diffusées. Par contre, toutes les séquences et tous les moments qui sont faits avec l'armée israélienne, pour le coup, on nous prévient pas, on nous dit pas attention à ce que vous regardez, ces images proviennent de telle personne, etc., etc.
On peut ajouter que dans les deux poids deux mesures, il y a les journalistes franco-israéliens qui sont en Israël, qui travaillent et dont on ne met jamais en question la. Alors, il y a de très bons journalistes, mais l'essentiel des médias israéliens aujourd'hui est avec le génocide. Et ça ne pose pas de question. On pense que du moment qu'ils sont franco-israéliens ou bien qu'ils parlent français couramment, ils sont objectifs. Tandis que de l'autre côté, on n'est pas objectif. C'est vraiment deux poids, deux mesures.
Vous avez entendu un extrait de l'émission spéciale de la chaîne Blast intitulée « Propagande à l'épreuve des faits ». Et vous avez entendu particulièrement l'intervention d'Alain Gresh, qui souligne les deux poids, deux mesures entre la confiance que l'on fait aux informations données par les journalistes israéliens ou franco-israéliens et les journalistes palestiniens. Voici maintenant un autre extrait de la même émission avec notamment la présence de Michel Siboni.
Ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Michel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante de l'Union juive française pour la paix. En 2009, déjà, vous signiez une pétition intitulée « Les crimes de guerre de l'État d'Israël doivent être jugés ainsi que leurs complices » dans le contexte de la guerre de Gaza de 2009. Une lettre qui, dans son propos, rejoint les inquiétudes qui nous mobilisent aujourd'hui en termes de droits. Bonjour Sylvain Sipel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le 1 et Orient 21. Vous êtes un observateur de longue date de la région qui nous occupe aujourd'hui. Vous êtes aussi l'auteur de l'État d'Israël contre les Juifs, publié aux éditions La Découverte, dans lequel vous donnez à voir, au travers de la dérive au long cours vers l'extrême droite de la société israélienne dans son ensemble, l'impunité croissante de ses dirigeants politiques pour qui vous écrivez, ce qui ne s'obtient pas par la force, s'obtient en usant plus de force. On va évidemment beaucoup en parler. Enfin, Raphaël Maison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit international et vous relevez dans une récente publication sur le média Orient 21 que dans ce chaos généralisé, marqué par la poursuite de l'offensive génocidaire à Gaza ainsi que par la révélation d'actes de barbarie commis sur des détenus palestiniens, c'était l'été dernier, l'avis de la Cour internationale de justice intervenue cet été sur l'illégalité de l'occupation israélienne est tout de même un nouveau succès majeur pour la Palestine. En plus des conséquences qu'il implique pour tous les États, il marque une rupture avec le discours politique dominant en Occident sur la nécessité d'une négociation avec Israël. Vous nous expliquerez pourquoi cette petite lueur, on va dire, d'optimisme.
Le sentiment d'abandon de lui, mais de tous les gens qui sont autour de lui à Gaza, cet abandon par de l'humanité par l'humanité. C'était cette... je trouve que c'est très important de restituer à ces gens leur humanité, parce que il y a un narratif qui l'a écrasé. C'est le narratif occidental, on va dire au sens large, hein, qui a fait d'eux des dommages collatéraux. Au fond, le narratif occidental dominant, c'est ils sont en train de chasser les terroristes du Hamas, donc il y a des morts autour. Non. La cible principale, c'est la population civile. C'est un mensonge de croire à ça. C'est pas le Hamas qui est visé. C'est la population de Gaza dans un plan, franchement,
qui porte un nom.
Ben oui,
la doctrine d'Ahia, c'est vraiment c'est une doctrine de l'armée.
Exactement.
En 2006 d'ailleurs.
Donc voilà, il faut se rappeler de ça. Et puis, effectivement, quand on parle d'empathie, puisque vous sollicitiez nos réactions sur l'empathie, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour toutes les victimes de cette histoire. Les victimes juives du 7 octobre et les victimes palestiniennes depuis et avant le 7 octobre. Et je pense que de ces deux narratifs qui se sont affrontés, le narratif juif israélien, nous sommes dans la légitime défense, comme si un oppresseur, envahisseur et occupant pouvait être dans la légitime défense, contre le narratif palestinien, ce serait bien, je le dis platement, mais ce serait bien qu'on arrive à comprendre qu'en fait il y a un seul narratif, que tous ces gens-là, les Juifs morts le 7 octobre et tous ceux qui ont suivi le 7 octobre sont les victimes du régime colonial. Tous sont les victimes du régime colonial. Et que tant qu'on touchera pas à ce régime et qu'on ne le posera pas comme la pierre angulaire de tout ce qui est en train de se passer, rien ne sera possible. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre, et un peuple qui en écrase un autre. De moi, je suis sensible à notre position à nous ici de témoins impuissants, dit-on, de ce qu'il faut bien appeler un génocide. Et l'histoire des Juifs est pleine de ces questions qu'on s'est posées sur comment ça a été possible dans les années 40 qu'on déplace tous les Juifs d'Europe dans des trains sous le nez de tout le monde et que personne ne bouge et que dans cette indifférence et alors ils savaient pas, il y en a qui savaient mais qui refusaient de bombarder les voies ferrées qui amenaient à Auschwitz. Toutes ces questions-là, moi j'ai grandi dessus et ça me donne froid dans le dos de regarder ce que je suis en train de voir, et je suis pas la seule, hein, je sais, sur le monde qui nous est réservé, si c'est valide comme outil de gestion de population ou de gestion du monde, le génocide. C'est une question qui va nous retomber à tous dessus avec énormément de violence. Et ce qu'il y a dans l'écrasement, l'aplatissement qu'a fait le néoconservatisme, des notions et l'amalgame des notions de résistance et de terrorisme, la notion de terrorisme, je crois qu'elle n'existe pas en termes de droit international. Par contre, la résistance, elle est légitimée. Si on confond les résistants et les groupes terroristes, avec les guillemets qu'il faudrait y mettre, ce qui disparaît, c'est la notion de libération, de libération des oppressions. Or, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples qui ont besoin d'être libérés aujourd'hui des oppressions. Et le monde qui est dessiné par ça est tellement affreux que je préfère être du côté de la libération, de tous les points de vue.
Vous avez entendu l'opinion de Michel Ciboni dans l'émission de Blast du 7 octobre 2024. Voici ce que disait la Coordination nationale de l'Union juive française pour la paix le 11 octobre 1924. En titre, nous dénonçons la désinformation et les calomnies à l'encontre d'une porte-parole de l'UGPF. Et voici le texte. Le 7 octobre 2024, Blast avait invité Michel Ciboni, porte-parole de l'UGFP, pour revenir sur la séquence qui a commencé le 7 octobre 2023. Les propos tenus par Michel Ciboni ont été honteusement tronqués et déformés par les sionistes de service des médias français. Entre parenthèses, Caroline Fourest, Géraldine von Sner, rédactrice en chef du journal Le Point et consorts. Fermez la parenthèse. Blast a immédiatement publié un communiqué dénonçant ce comportement. Il s'agit d'une chasse aux sorcières d'extrême droite contre une porte-parole de l'UGPF qui dit quelque chose que les éradicateurs sionistes ne supportent pas, que l'on caractérise l'État d'Israël comme État colonial. Or, un régime colonial met des cibles dans le dos des Juifs israéliens et alimente l'antisémitisme. Michel Siboni et l'UGPF disent une chose simple et humaine contre la guerre en accord avec le droit international, une seule solution, la décolonisation. Pour les éradicateurs sionistes, peu importe qu'il y ait plus de 40 000 Gazaouis tués, voire plus si l'on prend en compte les estimations de la revue The Lancet, par les bombes israéliennes, dont plus de 70% de femmes et d'enfants. Peu importe que la Cour internationale de justice ait considéré que l'État d'Israël devait tout faire pour prévenir tout acte de génocide éventuel et pour punir les incitations à commettre de tels actes et plus récemment que l'État d'Israël agit contre le droit international par l'occupation, l'annexion et l'apartheid, validant la manière dont les Palestiniens décrivent la situation depuis longtemps. L'UJFP dénonce fermement la campagne de désinformation et de calomnie visant Michel Siboni et rappelle que dénoncer les oppressions systémiques d'un contexte colonial est nécessaire. Alors voici donc ce qui a été dit sur Michel Siboni et je vais vous faire entendre la suite de cette émission de Blast.
Le 7 octobre, on l'a dit en première partie, c'était d'abord une opération militaire qui s'est ensuite étendue au kibboutz, etc. Et donc, il y a eu des civils qui ont été tués. Et on va minimiser le côté opération militaire et juste parler des civils qui ont été tués. Dans le cas du Liban, c'est presque l'inverse. On va presque dire à chaque fois que on dit qu'il n'y a que le Hezbollah. D'abord, en fait, en soi, ce n'est pas parce que quelqu'un est membre du Hezbollah. Il faut rappeler quand même que la France ne considère pas le Hezbollah comme une organisation terroriste, hein, contrairement au Hamas, que c'est un parti qui a certes une branche armée, mais qui est aussi un parti officiel, qui fait partie du gouvernement, qui est représenté au Parlement, dans un État, comme vient de dire Michel Siboni, souverain. Et donc, en fait, le seul fait d'appartenir au Hezbollah légitime le fait qu'on soit une cible, d'une part, et en plus, on limite en fait ce qui a été commis, c'est-à-dire un crime de guerre au Hezbollah. Et en fait, Sylvain parlait tout à l'heure du fait qu'on visait voilà toute une population parce que en disant que en fait il y a des membres de Hamas qui sont cachés au milieu de la population et c'est la doctrine de Dahriya donc c'est oui, littéralement dire. Banlieue et on l'utilise en arabe pour désigner la banlieue sud de Beyrouth qui est connue pour être un bastion du Hezbollah et donc la doctrine Dahriya en 2006 c'est en gros il se cache, donc le Hezbollah se cache au milieu de la population, donc...
Il est la population, voilà. Qui d'ailleurs. Ils sont marrants les gens, qu'est-ce qu'ils imaginent? Ils se cachent au milieu de... C'est une armée populaire le Hezbollah.
Et du coup,
c'est des gens.
C'est tuer les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Hein.
C'est l'idée est folle. Excusez-moi, mais là, vraiment, j'ai travaillé ce truc-là. L'idée, c'est que, oui, si on bombarde massivement les populations civiles... Alors, elles se retourneront contre celui qui a amené leur drame, c'est-à-dire soit le Hamas, soit le Hezbollah. C'est-à-dire que si vous, on vous bombarde, vous n'allez pas penser que les salauds, c'est ceux qui vous bombardent. Les salauds, c'est les autres, c'est ceux qui sont de notre côté. C'est une pensée délirante. Mais c'est une pensée délirante.
Le général qui est à la source de cette pensée est membre du...
Oui, il est membre du Conseil de sécurité. Mais alors, je pense qu'il ne l'est plus parce qu'il s'est engueulé avec Netanyahou. Mais peu importe, il a été longtemps dans le comité de guerre.
Et du coup, en fait, on a quelque chose qui a été donc pensé dans un contexte libanais en 2006, qui est ensuite passé du côté de Gaza, mais aussi... Je voulais signaler qu'il y a aussi un passage aussi, c'est pour ça quand on a écrit l'éditorial avec Alain Grèche en parlant d'une guerre totale en fait entre la Palestine et le Liban, mais parce que ce sont aussi les mêmes méthodes.
Une guerre occidentale.
Oui, une guerre occidentale en Palestine et au Liban, et ce qu'on remarque aussi, c'est que ce sont exactement les mêmes méthodes. C'est-à-dire que Israël a importé des méthodes, a appliqué sur Gaza les méthodes du Liban en 2006, et aujourd'hui, il applique au Liban ce qu'il est en train d'appliquer depuis un an à Gaza. C'est-à-dire le déplacement de population, c'est le fait de désigner des zones, c'est ce qu'ils font à Dahiya, en fait, qu'ils ont aussi divisé en plusieurs zones. On dit aux populations, Dahiya, enfin, la banlieue sud de Beyrouth est bombardée toutes les nuits. Mmh. Et chaque nuit, on va désigner à peu près entre minuit et 2h du matin, 2-3 zones en disant aux gens, vous partez d'ici et vous allez vous réfugier ailleurs. Bien sûr, on va bombarder les 5 zones autour aussi, parce qu'on va pas chipoter non plus sur les détails. Et puis, il y a aussi le déplacement, et puis ce fameux mythe de Israël qui demande juste, en fait, qui veut juste sécuriser les 30 kilomètres, donc de 30 premiers kilomètres du sud du Liban. Il demande juste au Hezbollah de reculer derrière cette limite, c'est-à-dire au-delà de la rivière du fleuve.
Il est déjà bien au-delà d'ailleurs.
Mais la semaine dernière, Israël a demandé à plusieurs villages qui se trouvent déjà au nord de l'Itanie de partir en fait. Ils déplacent des populations qui sont bien au-delà de cette limite prétendue des 30 kilomètres.
Et il y a déjà des projets de construction et de vente d'appartements aux Israéliens dans le sud Liban, comme ils ont fait sur Gaza. C'est-à-dire, il y a des vidéos qui circulent d'un papa israélien qui lit un livre à son enfant et qui lui explique que le Liban, c'est des ennemis, c'est pour ça qu'on les frappe, et nanana, mais que de toute façon, c'est à nous. On est dans le Liban, Cisjordanie et Gaza.
C'est pour ça que je trouve les derniers événements montre bien que c'est vraiment difficile de soutenir cette théorie de la légitime défense, agression d'un pays étranger. Mais surtout là, le discours, il est peut-être, je me trompe, hein, mais je trouve qu'il est tellement officiellement maintenant expansionniste, c'est-à-dire donc Gaza expansionnisme, Cisjordanie, bon, on voit bien que c'est un projet aussi expansionniste. Mais là, que fait le Premier ministre israélien? Il appelle les populations un changement de régime contre leurs dirigeants. Donc c'est vraiment la rhétorique finalement de 2003 des États-Unis. Hein. C'est s'inscrit, me semble-t-il, complètement dans cette rhétorique. Oui. C'est-à-dire en appelant, donc c'est plus seulement récupérer les territoires palestiniens. C'est vraiment un projet général, en tout cas il est annoncé comme ça, de changement de régime, avec un appel complètement sidérant à la population iranienne ou la population libanaise
renverser le régime.
Et accéder à plus de liberté grâce à Israël, qui va agir par le moyen de la force. Enfin, je veux dire, on est dans une situation complètement incroyable, avec de l'autre côté cette... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cet axe de la résistance, les 7 fronts de Benjamin Netanyahou. On voit pas vraiment si... On se demande si ça peut réussir, quand même, ce projet complètement majeur.
C'est apocalyptique. Enfin,
En brandissant aussi à l'ONU une carte où la Palestine et les territoires occupés disparaissent complètement, comme Bezalel Smotrich qui, en 2019, je crois, brandissait sur son pupitre dans une intervention à Paris.
À Paris, oui.
Une carte où la Jordanie n'existe plus. La Jordanie a aussi été annexée par Israël, comme pour le Golan, d'ailleurs.
Mais quand même, il faut quand même rappeler que, enfin, me semble-t-il, bombarder avec des bombes anti-bunker, je crois que c'est 86 pour atteindre Nasrallah. 85 tonnes de bombes en plein Beyrouth pour atteindre le bunker en pleine capitale d'un État étranger. Ça suscite pas tellement de réactions.
Il y a des bombes au phosphore lancées sur Beyrouth, quand même.
Normalement, ça devrait susciter des réactions absolument hallucinantes. Enfin, je veux dire,
matériel
très, très majeur, étant donné ce dont il s'agit.
Depuis le 7 octobre 2024, date à laquelle a été programmée l'émission Blast, l'armée israélienne n'a pas cessé ses bombardements sur Gaza et sur le Liban. L'Union pacifiste, comme les instances de l'ONU, demande un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts. Mais sans l'intervention des puissances occidentales, les massacres risquent de continuer encore longtemps. À la fin de notre émission, il me reste donc à remercier les médias qui m'ont permis de réaliser notre émission Civis Pacem, le site L'Orient 21, l'émission de télévision C'est Politique, la chaîne Média et la chaîne Blast. Nous espérons d'ailleurs que les journalistes palestiniens, et notamment Rami Abou Jamous, que nous avons entendu à plusieurs reprises dans notre émission, restera bien sûr en vie, que sa famille sera en bonne santé et qu'il pourra continuer à nous informer sur la guerre génocidaire d'Israël à Gaza. Merci aussi à Frédéric qui diffuse notre émission sur Radio Libertaire et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
mazou. Est-ce ni moun qui connaît fait ça fort? Mamaïla ou la petite zou qu'a quitté toute belle musique la mort. Je n'est pas capable de bavier quand yo dit tout ça, ces gens longtemps. Même boulet au shampoo bal nous tant, mais nous là et nous bien contents. Même boulet au shampoo bal nous tant, mais nous là et nous bien contents. Moi, ou dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiada, Netaï, qui fut ça, cousine germaine, écho parlant qu'au bruit on mène, de ce rivière, au sur cet an, qui beauté une trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan, qui beauté une trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan.
C'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 et DAB+. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous êtes en direct des studios. Yves au micro et à la réalisation technique, notre camarade Laurent. N'oubliez pas, comme d'habitude, de se télécharger la souscription parce que je ne sais pas si vous écoutez les actualités, mais ce gouvernement magnifique, libéral, dans toute sa splendeur, a décidé de réduire le budget de l'ensemble des radios associatives. Donc, nous allons être impactés. Et de ce fait, nous avons encore plus besoin de votre soutien. C'est un soutien qui n'est pas uniquement, symbolique. C'est un soutien vraiment politique parce que c'est un moyen de faire fermer la bouche de tous les opposants à cette politique et qui sont quand même représentés par un certain nombre de radios libres. Alors, il y en a évidemment partout dans toute la France, hein, avec des relais. Et donc, c'est très, très important de nous soutenir. Voilà. Donc, vous allez sur le site de la Radio Libertaire, de radiolibertaire.net, et vous faites tout ça, voilà. Concernant les émissions, vous pouvez consulter l'agenda. Vous devez même le consulter, puisqu'il y a l'ensemble des informations toutes les émissions sur la semaine. Le podcast disponible pendant 12 mois après la fin de sa diffusion. N'oubliez pas non plus de regarder ma page Facebook Yves Jazz Libre, sur laquelle je mets beaucoup d'informations concernant l'émission et puis l'autre émission Gabriel Maurice Claude et les autres, qui est le deuxième jeudi de 20h30 à 22h. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Alors, cette émission, comme la plupart du temps, est divisée en deux. Nous avons normalement la première partie pour les nouveautés, mais là, les nouveautés s'accumulent, donc je vous rassure, il y en aura. Mais nous allons avoir beaucoup d'invités entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Donc, écoutez, on va faire en fonction des...